les rôles principaux de Un secret, Patrick Bruel, Ludivine Sagné et Cécile de France.
Dis papy, on continue l'histoire avec Réunica ?
Ce soir-là, le petit prince avait rendez-vous avec le serpent dans le désert. Il dit à son ami l'aviateur, ne sois pas triste, là où je vais, je serai très heureux.
Pour accompagner vos proches, Réunica a conçu une garantie obsèque, avec assistance aux démarches, soutien psychologique et bien sûr, versement d'un capital.
Pour 40 centimes d'euros par jour, si vous avez 65 ans, c'est vraiment rassurant.
Appelez gratuitement Réunica au 0800 11 33 33. Conditions sur réunica.com.
France Inter et le Théâtre de la Commune d'Aubervilliers présentent du 3 au 28 octobre La Maman Bohème, suivie de Médée, deux pièces de Dario Fo et Franck Aramé mises en scène par Didier Bezas avec Ariane Ascaride.
Qu'est-ce qu'une femme si elle n'est pas une mère? Ce n'est même pas une femme, c'est qu'une femelle! Quelle couillonnade! Oh!
À retrouver dans les émissions de France Inter.
Mission Thérèse, vous m'entendez?
Incroyable! Investissement en recherche, innovation et enseignement supérieur, 100 millions d'euros en 3 ans! J'ai aussi repéré deux pôles de compétitivité!
Deux pôles de compétitivité? Comment s'appelle cette partie de la Terre?
La Lorraine! Je répète, la Lorraine!
Découvrez les faces cachées de la région Lorraine sur www.lorraine.eu. À 1h20 de Paris en TGV.
La Lorraine, un jour, vous lui demanderez la Lune.
France Inter, 13h30, 2000 ans d'histoire. Bonjour Patrice Gélinet.
Bonjour Alain Lougouguec. Oui, eh bien écoutez, 2000 ans d'histoire, nous sommes avec Patrick Rothman à l'occasion de la sortie du film L'ennemi intime, Les Appelés dans la guerre d'Algérie. Les familles regardaient monter dans les camions leurs fils, leurs frères ou leurs petits amis. Je voyais encore mes parents. Pour eux, comme pour moi, j'étais un enfant, leur enfant, et cet enfant partait à la guerre. Claude Berry, Le Pistonnet. D'histoire. Ils ont aujourd'hui plus de 60 ans et ils appartiennent à la dernière génération de Français qui a fait la guerre. Mais aucun d'entre eux n'a oublié ce qu'il a vécu à 20 ans pendant 18, 27 ou 30 mois en Algérie. Venus de toutes les régions de France et de toutes les couches de la société, ils étaient 2 millions de paysans, d'ouvriers, d'employés, de jeunes cadres ou d'étudiants qui, entre 1955 et 1962, ont traversé un jour la Méditerranée pour y faire la guerre. 2 millions d'appelés qui ignoraient ce qui les attendait. Les massacres commis dans les deux camps, les ratissages, les bombes du FLN et de l'OAS, la torture et parfois la mort. 25 000 d'entre eux ne sont pas revenus et les autres sont restés traumatisés jusqu'à aujourd'hui par ce qu'ils ont vu et pire encore, par ce qu'ils ont pu faire en Algérie.
Pour une première affectation, vous arrivez dans des circonstances bien difficiles. Vous allez remplacer un or. Le sergent Douniac va vous accompagner jusqu'à vos quartiers.
Vous avez de la famille qui vous attend en France, sergent ?
Non, pas grand monde. Et vous ?
J'ai une femme et un petit garçon.
Vous devriez aller les rejoindre.
Il paraît pas que vous avez des états d'âme, mais vous ne portez rien.
Bougez !
Faut que vous compreniez combien de guerres psychologiques.
Mais FLN a quitté mes têtes dégueulasses, mais les vôtres valent pas mieux, mon capitaine.
Je crois qu'on n'a pas été utilisé qu'en cas de guerre.
Pourquoi vous parlez d'hier, mon lieutenant ? Officiellement, c'est le maintien de l'ordre.
Certains d'entre vous se demandent parfois ce qu'ils font, les jeunes. Moi, chez eux.
Patrick Rothman, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était quelques extraits du film L'ennemi intime qui sort aujourd'hui dans les salles et dont vous avez écrit le scénario. Alors, des films sur la guerre d'Algérie ou évoquant la guerre d'Algérie, il y en a beaucoup, mais je trouve que le vôtre est pratiquement le premier à le faire sans aucun manichéisme, sans chercher à prouver quelque chose ou à prendre parti. Vous prenez tous les partis, on voit à peu près tous les protagonistes, en tout cas militaires de cette guerre, aussi bien les combattants du FLN que les appelés dont nous allons parler avec vous aujourd'hui, comme ce lieutenant incarné par Benoît Magimel et qui est le héros du film, mais qui est inspiré d'un personnage réel que vous avez rencontré, Patrick Rothman.
Oui, c'est-à-dire que ce film, L'ennemi intime, est un peu le prolongement du documentaire, L'ennemi intime que j'avais fait, du livre que j'avais fait il y a 5 ans. Et j'ai rencontré, effectivement, quand je faisais cette enquête pour le documentaire, un homme qui n'avait pas voulu témoigner devant la caméra, devant ma caméra, parce qu'il n'avait jamais parlé avec sa fille. Il n'avait jamais raconté ce qui s'était passé en Algérie, ce qui est un cas très très fréquent quand vous parlez avec les enfants d'anciens appelés. Généralement, ils vous répondent silence. Leur père ne leur parle, n'aura pas parlé. Et cet homme n'avait donc pas parlé à sa fille. Et moi, j'ai parlé avec lui plusieurs heures. Il m'a raconté son histoire. C'était un jeune homme un peu idéaliste qui avait fait des études supérieures et qui s'était retrouvé broyé dans cette spirale effrayante de la guerre d'Algérie. Et ça a été le point de départ du personnage, de l'écriture du personnage que joue Benoît Magimel. Je peux pas dire que ce soit lui, parce que tous les personnages de ce film, c'est une fiction. Les personnages sont inventés. Mais c'est en tout cas, il y a un morceau de lui dans ce personnage.
Alors ce personnage qui fait partie des quelques 2 millions d'appelés qui ont été envoyés en Algérie pratiquement dès le début de la guerre, dès 1955, parce qu'il fallait des effectifs, contrairement à ce qui s'est passé en Indochine, où on a fait appel qu'à des volontaires. Là, il y a eu des appelés et ils ont même formé la majeure partie de l'armée d'Algérie.
Oui, c'était la grande distinction, effectivement, entre la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie, et c'est pour ça que les jeunes Français, très vite, ont été envoyés là-bas, de plus en plus nombreux, d'ailleurs il y a eu des étapes successives, et ils formaient l'ossature de l'armée d'Algérie. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de familles ont été concernées, les Françaises, les Français, par le fait qu'il y avait un fils, un frère, une fiancée, un mari qui partait en Algérie.
Et plus concerné au fond que par cette guerre d'Indochine qui se passait de surcroît aux antipodes, là on est prêt, là toutes les familles effectivement avaient quelqu'un qui est parti. Alors dès le début de la guerre, pour augmenter les effectifs, il y avait les appelés, il y avait aussi ce qu'on appelait les maintenus, hein, les appelés au-delà de la durée légale, c'est-à-dire les ADL, et puis même les rappelés, hein, qui avaient fait leur service militaire, envoyés en Algérie à la demande du chef du gouvernement français de l'époque, Guy Mollet, le 3 avril 1956.
Le gouvernement a pris mercredi une série de décisions graves. Je veux vous en expliquer la signification et la portée, afin que tous les citoyens français sachent à quoi sont destinés les sacrifices auxquels ils vont consentir. Les hommes des contingents rappelés doivent savoir qu'ils vont en Algérie remplir une mission nationale. Leur rappel sous les drapeaux, leur présence là-bas témoigne d'abord de la volonté de la France de rester en Algérie. Les hommes rappelés doivent savoir aussi qu'ils ne vont pas en Algérie pour la guerre, mais pour une œuvre de paix.
Une œuvre de paix, pratique. Patrick Rothman, c'était vraiment le langage de l'époque. Ça, ouais, évidemment, aujourd'hui, ça nous choque, mais...
C'est une hypocrisie absolue, parce que vraiment, c'est un tournant très très important, l'envoi des rappelés. C'est Guy Mollet qui avait dit quelques mois plus tôt dans la campagne électorale que la guerre d'Algérie était une guerre imbécile et sans issue. À peine arrivé au gouvernement, il a fait voter les pouvoirs spéciaux, et c'est en fonction des pouvoirs spéciaux qui ont été votés d'ailleurs, y compris avec l'abstention des députés communistes. C'est grâce aux pouvoirs spéciaux que les rappelés ont été envoyés en Algérie. En quelques mois, il y a 200 000 jeunes Français qui vont être envoyés en Algérie. Donc c'est vraiment un moment décisif où on passe d'une guerre, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas, d'un seul coup, de l'année 56, on rentre vraiment dans la guerre d'Algérie.
Mais on n'appelle pas comme ça, on appelle au début maintien de l'ordre, pacification, on parle d'événements d'Algérie, un délicieux euphémisme. Alors, il faut le rappeler, dans votre film, il y a un passage, quelqu'un qui dit « Pourquoi a-t-on accordé l'indépendance au Maroc et à la Tunisie et pas à l'Algérie ?» L'Algérie avait un statut particulier, le Maroc et la Tunisie étaient des protectorats, l'Algérie c'était des départements français.
Et même 3 départements français, ouais.
Et absolument. François Mitterrand disait, l'Algérie, c'est la France.
Absolument, ouais. C'est le grand discours, enfin le fameux discours de François Mitterrand qui est ministre de l'Intérieur. Mais que disait Mitterrand, Mendès France le pensait aussi, et tout le monde, il y a toute la classe politique, et une immense majorité des Français. Parce que bon, la grande différence, évidemment, c'est que en Algérie, il y avait des Français qui étaient là. Enfin, je disais, tout le monde était Français, c'était la France. Mais il y avait des pieds noirs, donc il y avait une communauté de...
1 million de pieds noirs.
1 million de pieds noirs, communauté de peuplement, et il y avait des liens très très étroits, très anciens, avec avec la métropole, ce qui fait que le cas de l'Algérie était compliqué, douloureux et difficile. Personne en 1954-55 ne remettait en cause, à part une toute petite minorité, que l'Algérie c'était la France.
C'est bien qu'il y a eu assez peu en fait de réfractaires au début. Très peu de manifestations contre la guerre et très peu de réfractaires, enfin d'appelés refusant de partir.
Alors, il y a des travaux d'historiens sur cette question en ce moment, et j'en ai parlé pas plus tard que ce matin avec Benjamin Stora, et donc il va y avoir une thèse qui va paraître. Il paraît qu'il y a eu 15 000 objecteurs de conscience qui ont refusé de servir en Algérie sur toute la durée de la guerre. Bon, mais les premières manifestations concrètes qu'on voit, ça concerne les rappelés, c'est il y en a eu un petit peu en août 55, mais c'est surtout au printemps 56, au moment où Guy Mollet fait ce discours, il y a des manifestations de rappelés dans un certain nombre de villes, à Grenoble, en particulier, il y a des échauffourées assez violentes, c'est là, mais ça va très vite se retomber, parce qu'en fait, cette contestation de la guerre, contrairement à la guerre du Vietnam et ce qui se passera 10 ans plus tard, cette contestation de la guerre va ne recevoir aucun appui, en fait, de personne.
C'est bien que beaucoup d'appelés sont partis, même à contre-cœur.
Quand j'ai reçu ma feuille de route, je m'en souviens, j'ai eu comme l'estomac qui se vidait. Et il fallait y aller, et j'y suis allé. On m'a appelé, et j'y suis allé. Est-ce que j'ai eu tort, est-ce que j'ai eu raison? Je ne me pose même plus la question.
Ton tour à toi aussi viendra. Peut-être toi aussi débarqueras-tu à Alger. Bien vite, un nouveau convoi t'emportera vers l'intérieur, vers l'inconnu. Quelle route prendras-tu ?
Ici sous-lieutenant Delaille, de la 2e compagnie du GT-543. Je suis très heureux de l'occasion qui m'est offerte.
Bonjour à toute la famille et à tous les amis du Havre.
Amis, et particulièrement ma fiancée Eliane.
Ainsi que ma fiancée chérie. Bien le bonjour aux amis.
Et j'espère avoir bientôt la quille pour être de retour en France.
Le soleil brille. Le moral est bon, je vous embrasse tous affectueusement.
Vu de l'occasion inattendue qui m'est offerte, pour transmettre mes meilleurs baisers à mes parents, et à Perpignan des baisers qui n'ont pas tout à fait le même sens.
Dans ce bled il faisait chaud, l'ennui nous trouait la peau, on vivait sans savoir si on reviendrait au pays. À la caserne le soir, on avait souvent cafard. Heureusement, il y avait Fanny, j'y pense encore aujourd'hui.
C'est une chanson aujourd'hui totalement oubliée d'Hugo Frey, Il y avait Fanny, hein, que fredonnaient les appelés en 1961. Alors il y avait Fanny, il y avait la guerre, il y avait aussi l'ennui.
Pardon. Oui. Il y a une chanson de Serge Lama qui est pas très connue, oui. qui est très belle, et une chanson d'Eddie Mitchell. Tous les deux ont fait la guerre d'Algérie.
Alors, on a entendu dans cette chanson, il y avait l'ennui. C'est une chose qu'on ne réalise pas bien aujourd'hui avec du recul, mais qu'ont connu beaucoup d'appelés de la guerre d'Algérie. Il n'y avait pas que la guerre.
Oui, alors dans l'ennemi intime, on a choisi de montrer une section qui opère en ce qu'on appelle en zone opérationnelle, en zone de combat, donc qui est très impliquée presque quotidiennement, embuscades, etc., etc. Mais évident que c'était une partie du contingent qui a vécu une guerre de cette manière. Beaucoup d'appelés d'Algérie ont été soit dans les villes, soit faisaient ce qu'on appelait la pacification, soit faisaient du maintien de l'ordre, faisaient du quadrillage, etc. Mais ils ne rencontraient, il y en a qui n'ont jamais combattu. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu un combattant, un Felaga, comme on disait à l'époque, un combattant du FLN. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette guerre d'Algérie est extrêmement multiforme, extrêmement diverse. Et qu'il y a eu toutes sortes de guerres. On peut pas dire qu'il y a une forme de guerre qui a été faite par les appelés. En 54-55, la guerre n'est pas la même qu'en 59 ou qu'en 61-62, quand vous étiez sur les frontières marocaines, c'est la guerre des frontières ou tunisiennes, c'est pas la même guerre que dans les Aurès, dans les villes, la bataille d'Alger, etc. Donc il y a une très grande diversité. Nous avons fait un choix qui est montré dans l'ennemi intime, une section opérationnelle en Kabylie, au plus fort de la guerre, c'est-à-dire en 1959.
Les appelés, en fait, il y avait donc cet ennui, il faut rappeler que ces appelés étaient là jusqu'à 30 mois, hein. Très peu de permissions... Fanny, hein, les
parents. Oui, c'était un isolement terrible. C'était ils vivaient sur leur piton, dans leur caserne, ils voyaient rien, ils attendaient le courrier qui arrivait tous les 3-4 jours, la lettre de la fiancée, ils vivaient dans le foyer, comme on le voit très bien d'ailleurs dans le film, dans l'ennemi intime, en écoutant la radio, les tubes de l'époque. l'époque, Sacha Distel, Scooby-Doo, machin, écoutant Radio Bled, on a entendu un petit extrait tout à l'heure, etc. C'est cette vie, mais d'ennui, de vivre en vase clos, sans communication avec l'extérieur, parce qu'évidemment, on n'était pas à l'époque de la télévision, à l'époque d'Internet, etc.
Et ils étaient ces appelés, Patrick Rothman, dans à peu près toutes les unités, sauf la Légion étrangère, qui est uniquement composée de soldats de métier, là, on les trouve même dans les unités parachutistes.
Bien sûr, moi, j'ai rencontré beaucoup d'appelés qui étaient dans les paras et qui en parlaient. Donc, bien sûr, il y avait des unités opérationnelles, il y avait des appelés qui combattaient, qui avaient reçu une formation spéciale. Et le personnage que joue Benoît Magimel, Terrien, est un jeune appelé qui, lui, a fait ce qu'on appelle les EOR, École d'Officiers de Réserve, à Cherchel, c'était où beaucoup, ceux qui avaient, disons, bac plus quelque chose, faisaient les EOR, et sortait sous lieutenant. C'est son cas. Après, il est affecté. Enfin, il choisit d'aller en Kabylie.
Il y avait une affectation aussi qui est assez spéciale, assez extraordinaire, assez étonnante, ce qu'on appelait les SAS, hein, Section Administrative Spéciale. Là, c'était des soldats, la plupart du temps des appelés, qui pouvaient être des officiers, qui faisaient un peu tout dans le bled.
Ils faisaient de l'aide sociale. De l'aide sociale, de l'alphabétisation, ils soignaient, etc. C'était, disons, le visage humain de l'armée française qui aidait les populations, qui essayait de les aider. Malheureusement, ça a cohabité avec le côté répressif. Donc, j'ai entendu beaucoup de témoignages de gens qui servaient dans les SAS et qui disaient, on faisait un travail sur le terrain et puis bon, les paras arrivaient et tout était foutu. Il fallait recommencer à zéro, quoi.
Au cours d'un récent reportage effectué dans le secteur voisin d'Elmilia, notre reporter a rencontré quelques jeunes soldats du contingent qui lui ont parlé de la pacification dans ce secteur.
À mon arrivée ici en hiver 58, on voyait la population nous fuir, les enfants également, alors que maintenant, on peut se rendre compte que la population est beaucoup plus franche avec nous, les bonjours amicaux, les enfants viennent nous voir, ont besoin pour jouer avec nous, et il m'est arrivé avec quelques camarades tout récemment, de nous rendre dans une mèche-tâche chez un camarade, si on peut appeler ainsi d'un de mes camarades, un camarade musulman, qui nous a offert gentiment le kawa, le café, c'est-à-dire, tout ça très sympathique, très gentil, et dans une mèche un peu isolée des milliards, on ne se sera jamais rendu en novembre 58.
L'action de pacification n'est pas une action de conquête militaire matérielle. À l'abri de la sécurité ressuscitée, grâce à elle, elle veut rallier les âmes et les cœurs.
Bougez pas, ne tirez pas.
Qu'est-ce qu'il a tiré, là? Qu'est-ce qu'il a tiré? C'est ce merdier là, vous avez vu quelque chose? Où est-ce qu'ils sont là? Derrière cet arbre? C'est ce merde là, vous les avez vus derrière l'arbre?
Alors derrière la propagande de la pacification, Patrick Rothman, il y a la guerre, et la guerre elle est omniprésente d'ailleurs dans votre film.
Oui, bien entendu, ça ce qu'on vient d'entendre, c'est le discours officiel, la propagande, c'est une guerre où il n'y a pas d'information, on sait très peu ce qui se passe.
Et tout va bien, hein,
tout va bien, il y a de plus en plus de rebelles au tapis, puis ça n'arrête pas de continuer, on va bientôt sortir du tunnel, etc. La réalité, c'est une guerre terrible, c'est une guerre sauvage, la guerre d'Algérie est très compliquée, hein, parce que c'est évidemment c'est une guerre coloniale, c'est une guerre de libération du côté du FLN, c'est aussi une guerre civile entre Algériens qui est terrible, terrible, et le film montre cet aspect des choses, cette malheureuse...
Je veux dire entre harkis et combattants du FLN.
Et combattants du FLN qui parfois appartiennent à la même famille, qui, comme dans le film parfois...
Qui se sont battus
qui
même
se sont battus ensemble.
Sous le drapeau français pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Ce qui paraît avec le personnage de Fellac dans le film qu'on voit très bien, il se retrouve avec son copain, ils ont combattu à Monte Cassino et ils se retrouvent adversaires. Bon, cette fracture qui existe dans les familles, dans beaucoup de familles, en Kabylie où il y avait un fils qui était au maquis, un fils qui était du côté de l'armée française, c'est une déchirure incroyable. Donc cette contradiction, cette complexité de cette guerre que le film essaye de rendre à travers les personnages qui sont ballottés, ça rend l'approche simpliste impossible de cette guerre.
Mais alors une guerre aussi qu'on fait et qu'on veut gagner dans les deux camps, d'ailleurs, par tous les moyens. Vous montrez, par exemple, que le napalm a été utilisé avant que les Américains le fassent au Vietnam. Hein, là, il y a une scène épouvantable dans votre film. Il y a aussi, bien entendu, l'évocation de ce qu'on a surtout retenu dans le genre des atrocités de la guerre, la torture. Et là, on découvre, d'ailleurs, c'était la réalité, que les soldats eux-mêmes les appelaient. C'était pas une affaire simplement de militaires de carrière qui faisaient ça parce qu'ils avaient, ils étaient endurcis. Non, pas du tout. Des appelés eux-mêmes, même arrivés en Algérie avec les meilleures intentions du monde, eh ben, l'ont pratiqué la torture, Patrick Hautman.
La torture a été répandue pendant la guerre d'Algérie parce que la guerre d'Algérie était une guerre de renseignement, qu'on entend un moment dans l'extrait, dans le film, on dit c'est une guerre psychologique, guerre psychologique, ça veut dire gagner la population. C'est gagner la population. Guerre de renseignement, ça veut dire savoir que, où est tel Katiba, c'est-à-dire l'unité de l'ALN, où est le commissaire politique, quand est-ce qu'on va ramasser les impôts. Pour avoir les renseignements, le général de Gaulle le disait, on n'a pas des renseignements, on distribue des bonbons et du champagne. Donc, la torture est au cœur de ce système, il faut avoir les renseignements, il faut faire parler, etc. Mais cela étant dit, la torture a été répandue, ça veut évidemment pas dire, il faut surtout pas dire et penser que tous les appelés d'Algérie...
Non, j'ai dit les appelés, c'est un petit nombre d'entre eux.
Non, on pratiquait la torture. Ouais. Un petit nombre l'a pratiqué, certains même y ont pris plaisir, moi j'en ai rencontré, hein, c'était terrible. Mais ce qui est certain, c'est que tous ceux qui ont été en Algérie savaient qu'il y avait la torture. Ils fermaient les yeux, ils tournaient la tête pour pas le voir, ce qui se passait. Mais cela étant, je veux souligner que le film L'ennemi intime, c'est pas un film sur la torture, c'est pas
film sur la dénonciation de la torture. Mais elle est évoquée, vous ne pouvez
pas
le faire.
Elle est au cœur de la guerre, on peut pas ne pas le faire.
Elle montre au fond qu'elle est aussi au cœur de ce personnage, toujours de ce lieutenant, qui refuse au début et puis qui est poussé. Par quoi ? Non pas seulement par le sadisme, bien sûr, il n'est pas sadique,
pas du tout,
même
non.
Pas pour obtenir des renseignements, mais pour venger, au fond, par vengeance, à cause des atrocités commises aussi par le FLN, ce que montre bien ce film, Patrick Hautman.
Oui, ça c'est une chose qui est évidente et que je tenais à ce qu'on voit, à comprendre, se mettre à la place d'un... Finalement, le sujet, c'est quoi ? C'est comprendre comment un jeune homme de 20 ans, qui est très important, c'est l'âge, hein, un jeune homme de 20 ans, propulsé dans cette guerre, dans ce chaudron, dans ce brasier de la guerre d'Algérie, accepte de faire des choses que nous, dans notre fauteuil ici, on pense que tout à fait inacceptable. Et pourquoi il le fait, justement ? Parce qu'il voit les atrocités de la guerre, et il voit dans ces atrocités de la guerre... les atrocités et les crimes du FLN. Mmh. Bon, c'est vrai que c'est la première fois, je pense, que dans un film, on voit une séquence, une scène, où un village de femmes sont égorgées par le FLN parce que le village refuse de payer l'impôt. C'est vrai qu'on voit des soldats français, et combien de récits j'ai recueillis de soldats d'appelés qui vivaient avec cette peur au ventre d'être tombés dans une embuscade et d'être égorgés, j'emploie un euphémisme, par le FLN. Donc ça a joué considérablement, et quand vous avez vu vos copains égorgé, quand vous avez vu ce qui se passe, la vengeance, qui encore une fois, c'est le gars qui en 20 ans devient une espèce de réaction bestiale et primaire. Il faut beaucoup de morale, beaucoup de courage, beaucoup de culture pour refuser cet engrenage.
Et cet engrenage qui s'est poursuivi après l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle en 58 avec le plan Challes, commandant en chef en Algérie, qui sera en 1961 avec Zeller, Jouot et Salan, un des quatre généraux qui tenteront de faire un putsch contre de Gaulle en s'emparant d'Alger et de faire basculer de leur côté les soldats du contingent auxquels ils s'adressaient au micro d'une radio qu'ils avaient appelée Radio France.
Ici Radio France, voici nos informations. Depuis 24 heures, l'armée assure désormais tous les pouvoirs civils et militaires en Algérie. En 24 heures, l'ensemble du territoire algérien a reconnu l'autorité du nouveau commandement militaire. Et voici maintenant l'éditorial de Radio France.
Jeune métropolitain, jeune appelé du contingent, toi qui sers dans notre armée, l'heure est venue pour toi de considérer la question algérienne non plus seulement selon des données politiques, stratégiques ou nationales, mais aussi en fonction de toi-même. Jeune métropolitain, jeune du contingent, en défendant l'Algérie française, tu défends ton avenir, ton honneur et ton pain. Jeunes du contingent, jeunes de l'autre rive de la Méditerranée, pour vous, le pain, la paix, la liberté passent par l'Algérie française et fraternelle.
Algérie française, Algérie française,
quelle a été l'attitude des appelés pendant le putsch des généraux, Patrick Hautman? On dit souvent que c'est eux qui ont fait que ça a été un échec, parce qu'ils ont refusé de marcher avec les généraux.
Je crois que l'échec du putsch, on n'a pas le temps de détailler ici, c'est surtout son manque de préparation et le très, très mauvaise organisation du putsch. C'était des mauvais, hein. Comme disait De Gaulle, c'est pas Fidel Castro. Le contingent, il n'a pas bougé, hein, grosso modo. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages. On sait à peu près que le genre d'appel qu'on vient d'entendre a eu peu d'effet. Le contingent tout ce qu'ils voulaient, c'était la quille, c'était rentrer. Ils n'allaient surtout pas se mêler d'une aventure comme celle-ci.
Il y avait aussi, d'ailleurs, quelques soldats du contingent dans deux des régiments qui ont pris le pouvoir à Alger, hein, le 1er CP et le 8e RPI. Alors, ils n'étaient pas tellement pour l'Algérie française, ni contre d'ailleurs, assez passif, vous le dites. On verra d'ailleurs quand même que en 1960, ils n'ont pas suivi les partisans de l'Algérie française pendant ce qu'on appelle la semaine des barricades. Ils vont même se faire tirer dessus par l'OS, hein, les soldats du contingent, Patrick Rothman.
Oui, c'est mars 62, la fusillade des petits gars qui se sont fait tirer dessus, effectivement. Ça a été la fin de la guerre d'Algérie, c'est une apocalypse. Hein. C'est une apocalypse. Il faudrait beaucoup de temps pour en parler, ce qui se passe entre le cessez-le-feu et l'indépendance.
Et des soldats donc du contingent qui vont quitter l'Algérie après la signature des accords d'Évian en mars 62. La guerre était finie, mais pas dans leur tête. Ils en sont restés traumatisés 45 ans après les accords d'Évian.
Ici Évian, eh bien ça y est, la guerre est finie, la paix est signée à Évian. Il y a quelques minutes à peine, les hélicoptères ayant à leur bord les membres de la délégation algérienne sont repartis. La paix est signée, je vous donne rendez-vous à 19h15 pour les détails supplémentaires.
C'est en revenant que j'ai eu honte. J'avais honte d'avoir été obligé de voir ce que j'ai vu, d'être témoin de ce dont j'ai été témoin, sans rien pouvoir faire, et oui, d'être embarqué là-dedans.
Tout est revenu. Sous forme de cauchemar, les gorges ouvertes, les cris. J'ai dû prendre un psychiatre et je suis toujours sous ses soins.
Les douleurs, les cauchemars ont disparu quand j'ai pu mettre en face l'un de l'autre le garçon que j'étais là-bas pendant cette époque tragique et l'homme que j'étais devenu.
Celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est celle où je suis allé un été, dans un pays de soleil outre-mer, que certains désiraient conserver.
C'est Claude Vinci, celle que je n'aurais pas voulu faire, c'est une chanson de 72, à une époque et encore aujourd'hui où le traumatisme subsiste chez tous ces anciens combattants. On a entendu quelques témoignages qui sont tirés de votre documentaire sur l'ennemi intime. Patrick Rothman, elle n'est pas finie pour ces appelés, la guerre d'Algérie.
Non, je crois que c'est centaines de milliers, millions de jeunes gens français qui ont été projetés dans cette guerre à 20 ans et ont été marqués à vie. C'est un traumatisme profond, total, terrible. Ils en ont pas parlé, ils n'en ont pas parlé à leurs enfants. On a été faire des avant-premières en province de l'ennemi intime, le film de Florence Siri, et dans, à chaque fois dans la salle, il y avait des enfants d'appelés d'Algérie qui se levaient, qui disaient « Mais j'espère que ce film provoquera l'électrochoc, j'espère qu'après mon père me parlera », parce que ils sont murés dans le silence, un peu le silence de la honte, le silence d'avoir fait une guerre inutile, sans objet, puisque là c'est terminé comme on sait. Donc ce traumatisme, il est profond, et puis il y a des traumatismes beaucoup plus graves. Moi j'ai encore dans les yeux, dans les oreilles, ce spectacle de ces anciens d'Algérie que j'avais vu avec Bertrand Tavernier quand on faisait un film qui s'appelait La guerre sans nom, il y a 15 ans, qui était dans un hôpital psychiatrique. Depuis 30 ans, ils étaient dans un hôpital psychiatrique, des anciens d'Algérie, et qui étaient murés dans le silence autiste terrible de l'horreur de ce qu'ils avaient vu, de ce qu'ils avaient vécu.
Même si on a mis du temps à le faire pour ce qui concerne les harkis, pour ce qui concerne les pieds noirs, pour ce qui concerne bien sûr les Algériens et notamment ceux du FLN, on parle encore très peu des appelés en Algérie, alors qu'ils représentaient, ils ont été 2 millions quand même. On parle moins d'eux que des combattants de la Deuxième Guerre mondiale ou même de la guerre d'Indochine.
Oui, c'est une génération qui s'est tue et c'est incroyable. Moi je me souviens que quand on avait fait le film La guerre sans nom, qui était le premier film qui donnait la parole aux appelés, ça avait provoqué un choc parce que c'était la première fois qu'on entendait des appelés raconter la guerre. Et là, je pense que l'ennemi intime, le film qui sort aujourd'hui, plonge au cœur de la réalité de cette guerre. Il est fait de tous ces témoignages, de toute cette vie d'appelés d'Algérie. Et je pense qu'il y a eu des projections qui ont été faites pour des anciens d'Algérie et qui sortaient totalement bouleversés du film. Parce que, le film qu'on attendait, qui parle de ce que nous avons été, de ce que nous avons vécu. Et j'espère que le film qu'ils verront provoquera cette forme d'électrochoc qui permet la libération de la parole, du dialogue, notamment dans les familles, parce que c'est très douloureux.
Un film que vraiment j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment formidable, Patrick Rothman, vous en avez été le scénariste, c'est un film de Florent Emilio Siri. C'est également le titre du documentaire que vous avez réalisé en 2002. Le récit et le scénario sont édités en Point Seuil. Vous êtes également l'auteur, avec Bertrand Tavernier, donc, de La guerre sans nom, Les appelés d'Algérie, 54-62, dont le DVD est édité Studio Canal, et le texte par Point Seuil. À lire aussi sur le sujet, Appelé en guerre d'Algérie, de Benjamin Stora chez Gallimard Découverte, Le plus bel âge, Jeunes et jeunesses de France, à l'aube des Trente Glorieuses à la guerre d'Algérie, de Ludivine Bantini chez Fayard, et puis Algérie, Algérie, d'Éric Michel aux presses de la Renaissance. Enfin, la revue Historia, qui ce mois-ci consacre un dossier spécial à votre film et à la guerre d'Algérie. Vous avez pu entendre des documentaires suivants, Les années algériennes de Benjamin Stora, un DVD Obsina France 2, L'ennemi intime de Patrick Rothman, donc de vous, disponible en DVD chez France Télévisions, et puis La guerre d'Algérie d'Yves Courrière de Philippe Meunier en DVD aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles, vous le savez, par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Renan Mahé, Aveline Carmois, Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Sophie Gilry, à notre réalisatrice Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'occasion du 50e anniversaire de son lancement, le Spoutnik.
Mission terrestre, à vous.
Incroyable! Ici, on aide vraiment la création d'emplois par les entreprises. 126 millions en 3 ans pour les PME, PMI et TPE.
126 millions d'euros? Vous êtes où exactement?
En Lorraine? Oui, c'est ça. C'est la Lorraine.
Découvrez les faces cachées de la région Lorraine sur www.lorraine.eu. À 1h20 de Paris en TGV.
La Lorraine. Un jour, vous lui demanderez la lune.
Et voici notre rubrique MMA pour les professionnels.
Je suis médecin et moi aussi j'entretiens mon capital santé en faisant du sport. Mais bon, une mauvaise chute.
Aïe, ma jambe! Ah!
Si je suis immobilisé, impossible d'assurer mes consultations. Heureusement, zéro tracas.
L'assurance MMA Pro couvre les charges fixes et les pertes de bénéfices en cas d'arrêt provisoire de l'activité, même après un accident ou une maladie. Vous donnez le meilleur de vous-même à vos clients. Nous vous offrons le meilleur de l'assurance. Alors rendez-vous dans une agence MMA pour un diagnostic complet et gratuit. Et à bientôt pour notre rubrique MMA pour les professionnels.
MMA. Offre soumise à condition.
Dans quelques instants, Mathieu Vidard, dans cette tête au carré, recevra le généticien Axel Kahn. Mais tout de suite sur France Inter, il est 14h05. Les informations, Jacqueline Pétros, bonjour.
Bonjour. L'affaire secoue le monde financier et politique. Un rapport de l'autorité des marchés financiers est révélé ce matin dans le Figaro. Estime que les dirigeants de ADS et des groupes d'actionnaires comme Lagardère et Daimler Chrysler se sont rendus coupables de délits d'initiés en vendant entre novembre 2005 et mars 2006 des actions de ADS en sachant le retard pris dans la production de l'A380. Bercy est également mis sur la sellette car le rapport laisse entendre que le ministère de l'économie était au courant et aurait autorisé les ventes d'actions de Lagardère en toute connaissance de cause. Les syndicats d'Airbus se disent écœurés. La CGT demande que le plan Power 8 soit rediscuté. Le PC à l'Assemblée réclame une commission d'enquête et le PS dénonce une French.